Jules Hermina, l'effrayante aventure, troisième partie, Paris avant la création de l'homme, chapitre 1, catastrophe qui n'est qu'un début. Le lendemain, à l'heure dite, tout le monde fut exact au rendez-vous. Sans parler de 100 000 Parisiens qui, alléchés par l'article étincelant de la bergère, s'étaient dirigés vers les buts de Chaumont et les rues avoisinantes dans l'espoir de voir l'inventeur du vrillium et d'assister à l'intéressante opération promise. Du reste, avec la versatilité qui est la caractéristique de notre esprit national, déjà sur la simple assurance d'un article de journal, toutes les craintes avaient disparu. On ne voyait dans ce petit voyage au fond de Belleville qu'une excursion de plaisir. Il est vrai que la bergère, tout en transcrivant fidèlement les explications données par Sir Athol, avait, pourrait-on dire, optimisé l'affaire de telle sorte que l'opération qui allait être tentée était présentée comme un simple jeu pour le génial inventeur. Et nul ne songeait à le lui reprocher, car il était de première utilité de modifier dans un sens d'accalmie la mentalité des Parisiens si prompts à s'affoler. Seulement, toute cette foule, dans laquelle on comptait des représentants de toutes les classes sociales, se montra quelque peu désappointée quand elle se heurta à un déploiement de troupes qui la reléguait à quelques 500 mètres du lieu intéressant. Il y eut quelques bagarres, d'autant que de nombreux gens prétendaient se targuer de titres ou de fonctions pour enfreindre la consigne. Sénateurs, députés, porteurs de coupe-file, qui le prenaient de très haut. Mais la règle resta impitoyable, on ne passait pas. D'autant que le matin même, deux incidents s'étaient produits qui n'avaient pas peu contribué à réveiller les inquiétudes de M. Lépine. D'abord, c'était un pauvre ivrogne qui, dans la nuit, avait trouvé le moyen de s'introduire dans l'enclos, imprudence qu'il avait payée très cher. Car, s'étant évidemment approché de l'appareil, il avait été trouvé à quelques pas inerte comme mort. On avait dû le transporter d'urgence à l'hôpital voisin, mais malgré tous les soins qui lui avaient été prodigués, il restait plongé dans un coma qui faisait craindre pour sa vie. « Ah ça, lui dit Monsieur Lépine, est-ce que votre vrillium aurait la prétention de ressusciter les morts ?»« Oh, pas tout à fait, répliqua Sir Arthur en souriant, mais je crois bien que tant qu'il existe, dans un corps organisé, une étincelle de vie, si petite soit-elle, le vrillium la galvanise et lui rend toute sa vigueur. Ainsi, je l'ai essayé sur des animaux qui paraissaient morts de froid, ayant été enfermés dans des caisses de glace. Ils ne donnaient plus aucun signe de vie. Et le vrillium les a ranimés, et les animaux ressuscités sans même donner signe de malaise. Et décidément, vous êtes un magicien. Oubliez-vous que l'on affubla de ce nom les alchimistes d'autrefois, qui, votre Berthelot l'a démontré, n'étaient que des précurseurs, ayant eu le seul tort d'arriver trop tôt. Et le second fait qui avait attiré l'attention du préfet avait une certaine gravité. Un des principaux fonctionnaires de la préfecture de la Seine, M. Gérard, auteur d'études très intéressantes sur le Paris souterrain, était venu le trouver de grand matin et, plaçant des graphiques sous ses yeux, lui avait démontré que le sol, le tuf sur lequel reposait le terrain de la rue des Carrières d'Amérique, avait été reconnu, à la suite d'explorations malheureusement restées incomplètes, comme offrant des caractères tout particuliers d'instabilité. Déjà, on avait acquis la preuve par les précédents éboulements assez fréquents dans cette région. Il était grandement à craindre que les opérations qu'on se proposait en amenassent de nouveau. Nous devons avouer, avait ajouté M. Gérard, que nous ignorons absolument quelle est la nature des terrains sous-jacents, et de quelques observations qui me sont personnelles, je crois pouvoir déduire qu'ils reposent sur des couches absolument anciennes quaternaire et peut-être même tertiaire, ainsi qu'en témoigne la découverte de certains ossements fossiles. Mais je serais enclin à supposer, concluait le savant géologue, que cette partie de Paris fut, il y a des milliers d'années, secouée par un cataclysme de nature volcanique ou autre, et que le tassement définitif n'est pas encore accompli. D'où la possibilité d'écroulement dangereux. Monsieur Lépine, frappé de ses communications, avait cru devoir les transmettre à Sir Raphaël. Pour la première fois, le savant anglais avait paru légèrement troublé. Mais il avait bien vite ressaisi son sang-froid. « Oh, ce ne sont là que des hypothèses, » avait-il dit. « Tout homme qui agit sait qu'il doit compter avec imprévu. Vous avez vu vous-même, monsieur le préfet, que la présence de l'appareil constitue un danger continuel. Je ne veux pas avoir à me reprocher de nouvelles morts d'hommes. » Si indigne d'intérêt que fût ce pauvre Coxward, l'épouvantable accident dont il a été victime me laissa un perpétuel remords. Je dois tout tenter pour éviter le retour de pareilles catastrophes. Et d'ailleurs, je vous le répète, il n'y a ici que moi qui risquerais quelque chose. Je réponds de tout. » Et il ajouta avec un geste vague, sauf naturellement de l'insupposable. « Allez donc, monsieur, » lui dit le préfet d'un ton grave, « puisse l'événement donner raison à vos espérances. Permettez-moi de vous serrer la main comme à un homme de cœur, digne de toute notre estime. » La bergère et Bobby, fort de l'autorisation toute personnelle qui leur avait été donnée, avaient pu seuls pénétrer dans l'enclos. Sir Russell prit la bergère à part. « Monsieur, lui dit-il, je n'ai eu qu'à me louer de vous procéder et je vous remercie de la confiance que vous m'avez témoignée. Malgré mon intime certitude du succès, je dois tenir compte de toutes les éventualités. Si prévoyant qu'il soit, l'homme est toujours soumis aux caprices du hasard. Au cas où quelque accident m'atteindrait, voulez-vous être assez bon pour vous charger d'une lettre que j'ai préparée et l'adresser à celle à qui elle est destinée, Mademoiselle Mary Redmond, ma fiancée ?»« Oh, ce sont des services qui ne se refusent pas, » répondit la bergère. « Mais je compte bien ne pas avoir à vous le rendre. D'abord parce que nous sortirons sains et saufs de l'aventure, et encore parce que, s'il vous arrive quelque malheur, j'en aurai ma large part, étant absolument décidé à ne pas vous lâcher d'une semelle. » « Ah, je n'y consens pas !» s'écria vivement Sir Raphaël. « J'ai le droit de disposer de ma vie, mais non pas de celle des autres. Oh, je vous remercie d'être venu ici ce matin, mais maintenant, je vous prie de vous retirer. » « Mais jamais de la vie, j'y suis, j'y reste, et qui sait, peut-être bien un homme solide de bon vouloir pourra-t-il vous être d'un utile concours. On a souvent besoin d'un moins savant que soi. Enfin, dites tout ce que vous voudrez, je ne bouge pas. Par exemple, je serais bien d'avis de renvoyer l'ami Bobby, d'autant que, peu habitué au noctambulisme parisien, il doit avoir la tête un peu lourde. Hé, hey, Bobby !»« Je suis là, » dit le détective en s'approchant, « et j'attends que vous veuillez bien user de mes services. » « Non, mon cher Bobby, tu es beau, tu es vaillant, tu portes sur tes épaules la gloire de la grande Angleterre, mais tu vas avoir la bonté de nous ficher le camp. »« Ficher le camp ?» dit l'anglais en regardant la bergère d'un air ahuri. « Oui, ça veut dire de te barrer, de cavaler, en un mot, de t'en aller. » « Moi, m'en aller ?» s'écria Bobby en se campant sur ses jambes, les deux poings en avant, comme prêt à boxer. « Sir Raphaël, j'ai votre parole. J'ai le droit de demeurer ici et d'être témoin de tout ce qui va se passer. Il y a engagement pris, et pour le faire respecter, oh, je n'hésiterai pas à recourir, le fallut-il, à l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. » « Là, 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 mon petit Bobby, ne te fâche pas, » fit la bergère. « qui le traitait de plus en plus familièrement, car le bonhomme lui plaisait. Mais tout ça, c'est parce qu'il nous ennuierait fort pour Mrs. Bobby que tu te fasses démolir. Je suis aussi solide que vous deux, et si on doit être démoli, on le sera ensemble. J'ai réhabilité la police de Sa Majesté, et je ne faillirai pas à mon devoir. Sir Arcel haussa les épaules. Eh bien qu'il soit fait selon votre volonté, dit-il. Après tout, qui sait si nous n'aurons pas à nous entraider les uns les autres. À l'œuvre maintenant, car on pourrait croire que j'hésite. Rappelons en quelques mots quelle était la situation. Presque au milieu du terrain, une excavation en forme de cuvette, à demi remplie de sable et de pierre, et émergeant au milieu, le fameux Virilogir, enfoui jusqu'aux deux tiers de sa hauteur, avec au-dessus son toit métallique en forme de casque allemand et sa tige veuve de l'hélice. Le Virilogir était tétragonal, les parois étant faites de croisillons de métal et dans l'une d'elles, une porte est emménagée. Aucune poignée, aucune saillie ne pouvait offrir de prise pour le soulever. Et la porte étant fermée et maintenue dans son cadre par les pierres et le sable qui pesaient sur elle, il semblait impossible qu'à moins d'engins très solides tels que grues ou vérins, on pût parvenir à le faire sortir de l'étau qui l'enserrait. Cependant, Sir Russell s'était approché, armé d'outils qui paraissaient de cuivre et lui permettant de toucher l'appareil à distance. Il avait passé sur ses mains et sur ses avant-bras des sortes de longs gants faits d'un tissu métallique brillant et souple qui rappelait celui des brassards à mailles d'acier des anciens chevaliers. Un peu pâle, mais ayant au visage le signe non équivoque d'une volonté que rien ne saurait ébranler, Sir Russell, invitant du geste ses amis à lui laisser le champ libre, était descendu sur la déclivité de la cuvette, posant soigneusement ses pieds sur les parties qui offraient le plus de résistance. Alors, d'une de ces baguettes dont la forme était identique à celle des crosses d'évêque, il commença à toucher légèrement les colonnettes soutenant les rebords du toit, et des crépitements se faisaient entendre, tandis que de courtes étincelles jaillissaient. C'était exactement comme si un accumulateur se déchargeait au contact d'un corps bon conducteur de l'électricité. Mais les étincelles étaient de couleur singulière, comme noire, avec un reflet de rouge-brun. À chacune de ces décharges, on voyait une désagrégation s'opérer entre le toit et la partie qu'il supportait. La calotte de métal se détachait par saccades, laissant un intervalle de plus en plus large entre les deux bords. « Monsieur la bergère, dit alors Sir Arthur, auriez-vous l'obligeance de me passer l'outil en S qui se trouve à côté de la boîte? On ne craignait rien, il est inoffensif. » Mais il se trouva que l'objet était plus proche de Bobby que du reporter. Tout content de prouver son bon vouloir, Bobby se précipita, saisit l'outil, et se penchant sur le bord de la cuvette, le tendit à Sir Arthur, mais n'ayant pris aucune précaution pour assujettir ses pieds sur le sable mouvant, il glissa et dégringola jusqu'au fond de la cuvette, roulant comme une boule. Il tomba juste entre les jambes de Sir Arthur, qui, perdant l'équilibre, fut projeté contre l'appareil qu'il frappa, sans le vouloir, de toute la force de la baguette qu'il tenait à la main. La bergère s'était élancée pour retenir Bobby et, arc-boutée sur ses jambes, l'avait saisi par le fond de son pantalon, s'efforçant de le tirer en arrière. Que se passa-t-il alors? Il se produisit un effet foudroyant. Sans doute, sous l'action du choc de la baguette de Vrillium contre l'appareil, celui-ci se souleva, s'arracha de la terre en tournoyant. Puis il y eut au sommet du casque, qui n'était pas tout à fait dégagé de son support, un éclatement bruyant, fulgurant d'étincelles longues de près d'un mètre, véritable lame de feu qui coupait l'air en dardant vers le ciel. Puis un craquement formidable. Et soudain, le sol s'effondra sur un périmètre de plus de 10 mètres. Des vagues de sable et de pierre se soulevèrent pour retomber avec un bruit sinistre. On eût dit qu'un abîme s'ouvrait. Et dans cette perturbation effroyable, tout disparut, s'engloutit, l'appareil et les trois hommes. Un gouffre s'était tout à fait creusé, dans lequel s'éboulaient toutes les terres, tout le sable, toutes les pierres d'alentour. Et quand, attirés par le fracas de la catastrophe, le préfet, le ministre, les agents accoururent, ils ne virent plus qu'un chaos de pierres et de terre, à une profondeur de plus de 10 mètres, et qui s'était refermée sur les malheureux. Il eut une clameur de désespoir. Le malheureux Sir Arthur Random avait payé de sa vie l'effort héroïque qu'il avait tenté pour sauver Paris. Et avec lui avaient péri ses deux courageux casacolytes, Bobby le détective et Abergère le reporter. Douloureuse tragédie. Chapitre 2. L'angoisse du lendemain. L'effet produit dans Paris par cette catastrophe fut énorme. Ce fut un déchaînement de malédictions contre l'administration, coupable de n'avoir entouré l'opération d'aucune des précautions qu'indiquait la plus vulgaire prudence. En dépit de toutes les dénégations, la légende se formait que, par raison d'économie, on s'était refusé à exécuter des travaux d'étayage et de soutènement que le malheureux Sir Hassel avait réclamés. C'est un véritable assassinat, criait le reporter. Vit-on jamais pareil incurie? Mais que faisait pendant ce temps le service de la voirie? Pourquoi n'avait-on pas convoqué les sapeurs du génie? Et comment, pour le moindre incident sur la voie publique, on n'hésite pas à mobiliser les pompiers, et cette fois, quand il s'agissait d'un travail énorme, dont évidemment un seul homme ne pouvait se charger, on avait montré une insouciance criminelle. Puis c'était la préfecture de la Seine qui était visée. Les sous-sols de Paris lui étaient-ils donc inconnus? À quoi servaient des cartes et des graphiques publiés à frais énormes aux dépens des contribuables? En étions-nous réduits une fois de plus à devenir la risée de l'Europe? Le nouvelliste paraissait encadré d'un double filet noir. Car si la Bergère était un de ses rédacteurs, sa biographie occupait 3 colonnes de la première page. Bobby ne lui appartenait-il pas aussi par le zèle avec lequel le journal l'avait rendu défendu contre les inqualifiables attaques d'une presse brutale et mensongère? Enfin, tout le monde n'avait-il pas sa part de responsabilité depuis le ministre qui avait autorisé, avec quelle facilité, la téméraire tentative d'un homme dont la compétence n'était affirmée que par lui-même? Et que dire de ces prétendus savants qui avaient accueilli avec une légèreté coupable les affirmations les plus chimériques et avaient permis qu'un homme risquât sa vie sans les avoir soumises à aucune épreuve préalable? Ah, ils avaient cru à la toute-puissance du Vrillium. Ces libres penseurs avaient eu la foi. Cette foi, c'était bien la faillite de la science. Il était évident que ce malheureux random n'était qu'un fou qui, par quelques tours de passe-passe, avait su leur en imposer. La prétendue dissociation du bloc de marbre n'était qu'un truc de prestidigitation auquel tous s'étaient laissés prendre, jusqu'au préfet de police, qui pourtant n'était pas un naïf. Ce désastre avait eu son contre-coup à la Chambre des députés. Le leader de l'extrême-gauche avait, pour ainsi dire, bondi sur le cabinet, enveloppant dans la même réprobation tous les services, y compris la guerre, la marine et les travaux publics. Mais qu'attendre de gouvernants qui ne savaient même pas défendre le sol d'un quartier de Paris? Aujourd'hui, c'était une parcelle du 19e arrondissement qui disparaissait dans l'abîme. Demain, ce serait la France tout entière. Applaudissements à l'extrême gauche et sur les bancs de la droite. L'orateur, revenant à son banc, est vivement félicité. Il ne fallut rien moins que toute la souplesse, toute l'onction assaisonnée d'ironie du chef de cabinet pour résister à l'attaque. Reprenant la célèbre métaphore du bloc, il le montra se dressant robuste et sans fissure pour soutenir l'édifice superbe de notre pays. « Qu'importe, s'écria-t-il, des paroles amères à nous adresser, qu'importe ces attaques injustes auxquelles nous n'opposons que l'impassibilité des consciences fortes et sûres d'elles-mêmes. Sont-ce donc des mots qui sauveront les malheureux engloutis? Est-ce parce que nous aurons laissé échapper de nos mains ces portefeuilles dont certains sont si friands que le sol s'entr'ouvrira pour rendre ses victimes? Nous acceptons toutes les responsabilités, sans hésiter, d'un cœur ferme, parce que nous sommes prêts à en assumer d'autres, c'est-à-dire toutes les mesures déjà prises et à prendre pour l'œuvre difficile du salut des trois hommes, des trois martyrs de la science. » Acclamations sur les bancs de la gauche et du centre. L'orateur, revenant à sa place, est vivement félicité. L'ordre du jour de confiance fut voté à une majorité de 293 voix. Mais pendant ce temps-là, on travaillait. Toute la cohorte des ingénieurs parisiens avait été mobilisée, des puisatiers, des égoutiers, des maçons, des terrassiers avaient été appelés sur les lieux. Car, bien qu'on ne conservât plus aucun espoir de sauver les engloutis, il fallait bien, pour satisfaire l'opinion, accumuler toutes les preuves possibles de bon vouloir. Et voici quel était maintenant l'aspect du terrain. Un trou, un large trou, un immense trou, ayant une profondeur de 12 mètres, un pourtour de terre de caillasse, presque à pic et semblant en équilibre plus qu'instable. Au fond du trou, un amas de débris sans forme et sans consistance, qui semblait s'affaisser de moment en moment. Ensevelis sous cette masse, les malheureux n'avaient même pas dû souffrir. L'écrasement, et c'était un véritable bonheur, devait avoir été immédiat, instantané. Restait-il une chance quelconque de les arracher à leur sort, très probablement accompli depuis la première minute? Pas un des ingénieurs ne se fut hasardé à répondre par l'affirmative. Bien plus, étant donné la nature du terrain, il était certain que tout travail tenté ne pouvait que déterminer de nouveaux éboulements et par conséquent augmenter la masse des matériaux sous laquelle les victimes n'agonisaient même plus. On décida que l'impossible serait tenté. Un étayage solide serait établi pour contenir les parois du gouffre. Puis on installerait une sorte de drague avec laquelle on enlèverait la plus grande partie possible des sables et des gravats. Quant à la durée des travaux, qui aurait pu les prévoir? Il était peu probable qu'on pût, avant 48 heures au plus, commencer le labeur de déblaiement. Ne satisfaisant personne, ces mesures étaient cependant les seules auxquelles on put songer. On ne se faisait plus d'illusions, mais on essayait d'en éveiller chez autrui. Du reste, le deuil public se manifestait avec son intensité habituelle. Le temps était très beau, les terrasses des cafés regorgeaient, et le soir, les salles de théâtre furent combles. On eût volontiers préparé une fête, représentation ou bal de gala, au profit des victimes. Mais puisqu'elles étaient mortes... Le reporter eut une idée de génie pour diminuer la triste victoire du nouvelliste. Un de ses rédacteurs fut dépêché à Londres avec mission d'avertir la veuve de M. Bobby et de la ramener à Paris. Ce qui fut fait, et la malheureuse femme, véritablement désespérée de la mort de son brave détective de mari, dut parader sur les boulevards en une voiture sur laquelle planait un étendard noir, avec en lettres d'or cette inscription « Le reporter à la veuve du martyr ». Une souscription était en même temps ouverte dans ses colonnes afin de mettre Madame Bobby à l'abri du besoin. Le journal s'inscrivait pour 1 000 francs. En même temps, le nouvelliste, qui n'entendait plus se laisser distancer, faisait appel à tous les journalistes, à tous les intellectuels, pour que fût élevé à la mémoire de la bergère, le héros du reportage, un monument dont l'exécution fut confiée au grand Rodin. On rêvait une statue rappelant le Moïse de Michel-Ange, dont les cornes électriques symboliseraient la nature de l'accident où il avait péri. Il n'était que Sir Arthur Random dont nul se préoccupait. Après tout, il était le véritable auteur responsable de la catastrophe. Déjà, de ses prétendues inventions, John Scotsward avait été la première victime. Et voici que ses fantaisies pseudo-scientifiques avaient encore causé la mort de 3 personnes. Seul Émile Gautier, le chroniqueur scientifique, élevait la voix en sa faveur et, dans un article sérieusement documenté, exposait la théorie des terres rares et du vrillium. L'avenir réhabilitera Sir Arthur, victime irresponsable d'un accident tout à fait indépendant de sa volonté et dû seulement à l'incurie de l'édilité parisienne, et suivait une charge à fond de train sur les hauts fonctionnaires de la préfecture de la Seine. 24 heures s'étaient déjà écoulées quand on signala l'arrivée à Paris de Miss Mary Redmore, la fiancée, hélas déjà veuve, de Sir Arthur Random. La malheureuse jeune fille, qui portait à Sir Arthur une profonde affection, avait voulu apporter l'hommage de son inconsolable douleur sur cette tombe effrayante où nul vestige ne rappelait plus le souvenir de celui qu'elle avait aimé. Elle était accompagnée de son père, l'énergique M. Redmore, qui, ayant pris définitivement le parti de sa fille et n'admettant pas l'irresponsabilité des Français dans cette horrible catastrophe, se mit immédiatement en rapport avec nos plus éminents avocats d'affaires. Il était destiné à intenter un procès à la ville de Paris et à lui réclamer, au nom de la famille de Sir Arthur, dont il s'était fait confier les pouvoirs, des dommages d'intérêt qu'il évaluait à 20 000 livres sterling, c'est-à-dire à 500 000 francs. Une complainte se vendait sur les boulevards. « Français, écoutez l'histoire, qu'on ne pourrait pas y croire, d'un Anglais qu'un triste sort précipita dans la mort. À bientôt, Blériot, faisant la pige armée d'un simple tige, il s'imaginait, pauvre homme, à l'aide du vrillium, voler à travers l'espace, voir le soleil face à face. Il est tombé dans un trou où ce qu'on ne voit rien du tout. » L'éditeur de cette œuvre, qui se chantait sur l'air de Fualdès, fit une fortune rapide. Mais peut-être est-il nécessaire de dire maintenant ce qu'il était advenu des 3 protagonistes de cette tragédie. Chapitre 3. Sous Paris. Pour tout homme de sens rassis, se défendant contre les suggestions d'une imagination fantaisiste, il n'est pas douteux que, si un kiosque à journaux et 3 hommes sont entraînés dans la débâcle de centaines de mètres cubes de matériaux divers, les probabilités militant en faveur de leur écrasement se peuvent chiffrer par sur 1999 à une chance pour leur salut. Cependant, étudiez les faits divers que nous apportent les journaux et vous serez surpris de voir le rôle qu'en les cas les plus effrayants joue cette force que nous nommons, sans la comprendre, le hasard. sans qu'il y ait miracle, sans qu'aucune des lois connues et vérifiées soit violée, ce couvreur tombe du 6e étage, rebondit sur un balcon et vient s'étaler sur une voiture d'ordures ménagère qui lui fait un lit moelleux et sauveur. Sur deux automobilistes emportés par la même voiture, mais en péril par la même rupture de frein, culbutant sur le même obstacle, sous la même voiture qui capote, l'un d'eux est tué raide et l'autre en est quitte pour quelques douleurs internes et provisoires, dont le seul intérêt sera de servir de justification pour réclamer une indemnité au célèbre qui de droit, anonyme auteur de tous nos maux. Sous les rafales de la tempête, sur 10 navires, 9 parviennent à fuir devant le vent et atteignent la calmie. Le 10e, le plus solide, le plus neuf, le mieux commandé, disparaît, happé par la mer, et des passagers un seul survit, un boiteux qui n'avait jamais navigué, bien entendu, ignorait les plus élémentaires principes de la natation. Il y a sur mon trottoir une pelure d'orange. Depuis le matin, 100 personnes ont déambulé au pas, au trot, au galop, sans même y prendre garde. Je sors, je vois la pelure, et d'un coup de pied, l'envoie dans le ruisseau. Je tombe et me casse la jambe. La vie et la mort sont à la merci des milliers de circonstances, les unes visibles et dont nous croyons pouvoir nous écarter, les autres invisibles et sournoises qui règlent notre compte sans que nous ayons supposé qu'il y avait un calcul à faire. Il n'est rien de moins vraisemblable que le vrai, et rien de plus vrai que l'invraisemblable. C'est pourquoi, si étrange, si stupéfiant que paraisse la suite de ce récit, l'incrédulité du lecteur ne serait qu'une preuve d'inexpérience. Le mot « impossible » a dit Arago n'existe pas, sinon dans les mathématiques pures, et encore. C'est pourquoi ce serait faire preuve d'une fâcheuse étroitesse d'esprit que de s'étonner quand nous retrouvons à une profondeur que nous n'avons pas encore eu le temps d'évaluer numériquement, Sir Russell Random assis, le front dans la main, et réfléchissant profondément. Assis où, sur quoi? Oh, tout simplement, sur le plancher de son kiosque, de sa guérite, de quelque nom qu'on veuille la nommer. Brisé, ou tout au moins étourdi, non, point, très calme, très valide et en possession de toutes ses facultés. Seulement un peu étonné, premièrement de se trouver à l'intérieur de son appareil d'aviation, deuxièmement de n'entendre aucun bruit et de se sentir en pleine et lourde solitude, et troisièmement d'avoir la sensation d'une descente plutôt que d'une chute sans heurts violents. Naturellement, l'obscurité était profonde et ce n'était qu'à tâtons que Sir Russell avait reconnu le plancher et les parois. Encore n'avait-il hasardé ses gestes qu'avec une infinie précaution. Il savait trop par expérience quel péril pouvait présenter une brusquerie de gestes dans un local muni de tous côtés d'une machinerie aussi délicate que dangereuse. Donc, il avait pris le parti le plus sage, qui était de se tenir aussi mobile que possible, et de réfléchir aussi nettement et aussi froidement que les circonstances le permettaient. Sir Russell, on l'a deviné du reste, était un esprit précis, méthodique, serriant les questions. Le fait de se trouver à de nombreux mètres sous terre, enfermé dans une caisse d'explosifs, n'était pas à premier examen de ceux que l'on choisirait bénévolement pour occuper ses loisirs. Mais d'autre part, c'était satisfaction réelle que de sentir son cœur battre, que de faire jouer ses muscles, que de constater l'activité de son cerveau. En un mot, de se retrouver après pareil alerte, parfaitement vivant. Sir Russell monologua à la muette, bien entendu. Mais je me rappelle fort bien, se disait-il, que je touchais au succès. J'allais en quelques minutes, et par la seule force du virilium, convenablement adapté, soulever lentement le virliogyre. Mon but était, aussitôt que j'aurais dégagé la porte, de m'introduire à l'intérieur avec les précautions convenables, d'atteindre l'isolateur central et ainsi de neutraliser l'effet du virilium, redevenu provisoirement inerte. Et alors, on aurait achevé le sauvetage de l'appareil par les moyens ordinaires. Quelques cordes solides et de vigoureux bras auraient achevé l'œuvre. Mais que s'est-il alors passé? Je me souviens que j'avais déjà déchargé certaines parties des condensateurs. Encore quelques instants et je touchais au but. Seulement j'eus besoin, ma mémoire est très fidèle, d'une des tiges que j'avais préparée et qui par sa forme recourbée me permettait de lui faire pénétrer à l'intérieur. J'atteignais ainsi le ressort supérieur de la porte dont une partie se repliait et livrait passage à ma main qui achevait l'œuvre. Ah, j'eus le tort, je le reconnais maintenant, de faire appel à autrui. À monsieur la bergère, si je ne me trompe, pour obtenir l'outil désiré. Et alors ce fut alors qu'un corps lourd se précipita sur moi, détermina le choc de ma baguette à virilium contre une partie de la paroi. Il se donna à lui-même quelques explications, dont le résultat fut qu'il ignorait comment la porte avait pu s'ouvrir et se refermer sur lui, en même temps que les chars de virilium, contenus dans des baguettes et soudain libérés, déterminaient un éboulement et la chute de l'appareil. Mais la science constate nombre de faits dont les modalités lui échappent. Le phénomène actuel les augmentait d'une unité, c'était tout. Ce qui était évident, c'est que par les chocs subis, tel désenclenchement s'était produit dans les ressorts moteurs qui avaient opéré la neutralisation du virilium. Car au moment actuel, il semblait en vérité que l'appareil fût pour ainsi dire mort, ne produisant plus ni force, ni chaleur, ni lumière. Question à étudier de plus près, si jamais on avait encore le loisir de l'étude. Tout ceci, pensa Sir Athol, ne me renseigne que très médiocrement sur les moyens qui me restent de sortir de la position plus que précaire dans laquelle je me trouve. Et tout à coup, il eut un frisson. Une pensée, un instant écartée, lui sautait au cerveau. Il n'était pas la seule victime de cette catastrophe. Il avait deux compagnons, la bergère, Bobby, le reporter génial, le détective si fortement britannique. Les deux malheureux avaient-ils péri? Soit qu'ils eussent été foudroyés par les décharges viriliennes qui avaient déterminé et accompagné l'effondrement, soit, ce qui était le plus horrible encore, qu'ils eussent été écrasés par les décombres. Sir Russell avait le cœur essentiellement bon. Toutes ses recherches scientifiques n'avaient d'autre objet que d'augmenter, si possible, la somme de bien-être dont disposait l'humanité. Qu'importait sa vie à lui? Dès longtemps, il en avait fait le sacrifice. Mais avait-il le droit de disposer de celle d'autrui? Or, ici, sa responsabilité était entière, indéniable. Pourquoi, connaissant les périls de l'opération, sachant que lui seul pouvait les conjurer, mais comment, pourquoi avait-il été assez faible pour autoriser ces deux hommes à l'accompagner? Encore pour le cas de Cosworth, pouvait-il alléguer pour sa défense personnelle que c'était par la propre imprudence du boxeur que l'accident s'était produit? Sir Russell en avait été témoin sans y participer en quoi que ce fût. Mais là, il ne pouvait pas adresser le moindre reproche à ces deux hommes qui ne l'avaient suivi que par intérêt pour lui. Il aurait dû, c'était son devoir d'honnête homme, les repousser, rejeter impitoyablement leur requête. Et Sir Russell se demandait en rougissant s'il n'avait pas obéi à un ridicule instinct de vanité en les acceptant pour proches témoins de ce qu'il croyait être une victoire. Il se dit qu'après tout, il avait expié ce crime, car quel espoir de sortir du gouffre où il était enlisé. Eh bien, qu'il mourût, Ce n'était après tout que le châtiment qui lui était dû. Sous le poids de ses pensées douloureuses, Sarah seule se sentait faiblir. Toute son énergie l'abandonnait. Était-ce manque d'air ou simplement l'effet de la tension morale? Ses nerfs se brisaient, son cerveau s'embrumait, un voile s'étendait sur ses yeux. Il éprouvait la sensation épouvantable de l'inhumation prématurée, et ses deux mains, en un geste désespéré, se crispèrent contre sa poitrine, secouée par un spasme convulsif. Ce geste inconscient le sauva. Sous ses doigts, il sentit des objets durs qu'il connaissait bien. C'étaient de petites boîtes plates, pareilles à des bonbonnières, dans lesquelles il avait enfermé des parcelles de vryllium. Le vryllium! Quoi, il était en possession de ce produit étonnant, de ce moteur universel, de cette panacée à laquelle rien ne résistait. Et il se laissait aller au découragement. À quoi donc eût servi de s'être rendu maître d'un des plus puissants secrets de la nature, si cette découverte ne lui eût pas apporté le salut dans les circonstances les plus désespérées? Après tout, puisqu'il n'était pas mort, pourquoi ses deux compagnons eussent-ils été nécessairement succombés? Rien que pour avoir touché une des boîtes qui renfermait le vryllium, déjà Sir Arcel se sentait réconforté. Non, il ne s'abandonnerait pas, il lutterait, il vaincrait. Et il lui sembla voir, dans une vague pénombre, le doux visage de Mary Redmore qui l'encourageait. « Mais je suis dans le vrilogir, se dit-il. Mais où se trouve l'appareil ? Ah, c'est là ce qu'il faut savoir, et pour cela, il faut de la lumière. Oh, le vrilium va m'en procurer. » Il y avait encore un danger, c'était de hasarder un faux mouvement qui agit sur quelqu'un des ressorts de la machinerie et déchaîna encore quelques décharges. Car Sir Arthur, qui avant le 1er avril ne songeait pas encore à utiliser son avion, s'en servait volontairement pour emmagasiner les parties de vryllium qu'il obtenait dans son laboratoire. Avec d'infinies précautions, il tira de la poche de son gilet le menu porte-crayon qui lui avait servi naguère à dissocier l'encrier de marbre. Il le palpa, fit jouer délicatement une virole destiné à modifier les effets à obtenir, puis poussa un ressort. Il y eut un léger déclic et une languette de feu jaillit, assez semblable à la flamme de l'acétylène. Une clarté éblouissante envahit la cabine, disposée comme celle d'un poste téléphonique, et sur toutes les parois étaient installées des petites caisses munies de poignées ou de boutons, le tout formant, pourrait-on dire, une sorte de clavier dont les touches agissaient sur les diverses parties du mécanisme. Un faisceau de fils reliait ce système à une sphère de très petite dimension, fixée sur une tige métallique qui traversait la cabine de haut en bas et qui, nous le savons déjà, commandait les deux hélices aux deux extrémités verticales de l'appareil. Au premier coup d'œil, Sir Arthur comprit ce qui s'était passé. Dans le choc brutal qu'avait produit sa chute, un des ressorts de l'intérieur s'était déclenché et le moteur, se mettant en marche avec une rapidité énorme, avait fait agir l'arbre des hélices. À son extrémité supérieure, l'hélice qui avait été brisée n'existait plus, mais à la partie inférieure, elle subsistait dans son entier. Et tournant avec une vélocité vertigineuse, elle s'était enfoncée dans le sol friable, faisant en quelque sorte office de tire-bouchon, ou mieux de vis d'Archimède. Et elle avait creusé un puits dans lequel l'appareil tout entier était descendu, comme dans une gaine où il s'était frayé sa voie, ralenti cependant par le frottement. Ce qui expliquait comment la descente, au lieu de présenter le caractère d'une chute dans laquelle tout se fut fracassé, avait pris celui d'un glissement. Mais pourquoi l'arrêt ? Ayant allumé une lampe attachée à la paroi, un seul, libre de ses mouvements et complètement maître de lui-même, chercha. La char de Vrilium, qui actionnait le moteur et les diverses parties du mécanisme, était presque épuisée, et pourtant suffisante encore pour produire de très réels effets. Il était évident qu'un obstacle puissant s'était opposé à la continuation du mouvement, et bientôt un seul en reconnut la cause. Après avoir perforé les diverses couches de terre, de sable, de pierre désagrégées, qui ne lui avaient opposé qu'une résistance relative, l'hélice inférieure s'était trouvée subitement arrêtée. L'énorme forêt dont elle était garnie à son centre s'était engagée dans une matière dont la dureté était telle qu'il n'avait pas pu la percer. Son mouvement de rotation s'était arrêté et l'appareil se trouvait par le fait même immobilisé par l'obstacle. Cependant, Hassel savait qu'à la force du Vrilium par une substance inconnue ne pouvait résister. Cet arrêt devait donc provenir d'une cause spéciale qu'il ne tarda pas à découvrir. Par un accident dû à la rupture d'un des ressorts métalliques, la communication se trouvait interrompue entre l'arbre de couche et le moteur, ce qui était facile à réparer. En somme, et grâce à un hasard incroyable, mais qui prouvait l'excellente qualité des matériaux employés à la construction de l'armature, le Vrilogir était pour ainsi dire intact, et Hassel ne doutait pas qu'il pût facilement le remettre en activité. Mais ici se posait la question la plus grave. Y avait-il lieu de provoquer un nouveau déplacement? Dans quel sens devait-il être dirigé? En un mot, où se trouvait-on? À quelle profondeur? Le savant anglais avait la sensation très nette qu'il avait perdu connaissance, mais pendant combien de temps? Était-il à 10, 20, 30, 100 mètres au-dessous du sol? La descente était-elle opérée en ligne droite ou inclinée? Toutes interrogations qui restaient nécessairement sans réponse. Hassel regarda sa montre. Elle marquait 1 heure. C'est-à-dire que depuis le moment où il avait commencé l'opération, 10 heures du matin, 3 heures s'étaient écoulées. Et encore, où était la preuve que ce fut 3 heures plutôt que 15 heures? Ceci pouvait se vérifier mécaniquement. Il fit jouer soigneusement le remontoir. Le nombre de tours lui démontra que c'était bien 1 heure de l'après-midi. Mais pendant combien de temps était-il resté inerte et inconscient? Les termes du problème ne se simplifiaient pas. Enfin, de quoi était enveloppé le Vrilogir? Dans quelle sorte de matière se trouvait-il encastré, enchâssé? Comment le savoir? Pour se donner de la force, Hassel ouvrit une petite boîte qui contenait les pilules Berthelot. On sait que notre grand chimiste avait émis cette hypothèse qu'un jour viendrait où la nourriture de l'homme par les substances organiques serait remplacée par les éléments chimiques qui les composaient. Si bien que l'alimentation serait assurée par des condensés de l'essence même des choses, des éléments, azote, carbone, phosphore, dont sont formés les viandes, les légumes, le lait, etc. Tablettes ou pilules qui, sous un très petit volume, serviraient à la réparation des forces. Sir Hassel avait étudié cette question depuis longtemps et l'avait en partie résolue. Dans une boîte d'un décimètre carré, Hassel était en possession de provisions suffisantes pour assurer son alimentation pendant des mois entiers. Craignant donc une nouvelle défaillance physique, il prit 2 pilules riches en azote et y ajouta même, afin d'éclaircir son cerveau, une tasse de café en pilule. Il se sentit rasséréné, alerte, et éprouva cette sensation qu'il était vraiment trop vivant pour mourir. Il savait enfin qu'en dernier ressort, il lui restait une suprême ressource. L'injection sous-cutanée du vrillium, qui, tant que les organes étaient intacts, rendait à l'être toute sa vitalité. La confiance en soi est la première condition du succès. Dans le très petit espace où Hassel pouvait se mouvoir, il examina un à un tous les divers mécanismes de sa machine, interrompit les contacts qui pouvaient encore développer l'action du vrillium. Il ne laissa rien au hasard, et comme un général qui inspectait toutes les parties de son champ de bataille, il se décida à agir. Ce fut alors que, levant les yeux pour la première fois jusqu'au plafond du kiosque, il s'aperçut que la partie supérieure était soulevée. N'avait-il pas été pratiqué en effet une sorte d'arrachement du casque prussien qui le couronnait? Dans la chute, ce couvercle, oh, il n'est pas de terme plus clair, avait basculé et par l'orifice ainsi pratiqué, il était possible de jeter un regard au dehors. Il se hissa sur un escabeau et grâce à sa haute taille, il atteignit le sommet, passa sa tête par l'orifice. L'obscurité était noire, mais une tiédeur lui monta au visage. On eût dit qu'un certain espace s'étendait alentour. Il prit le fameux porte-crayon, bon à tout faire, et ayant passé le bras, fit jaillir la lueur claire et blanche. Il eut une exclamation de surprise. Le vrilliogyre n'était pas engainé comme il l'avait cru d'abord. Au-dessus de lui, l'espace était libre. Et aussi, devant une des parois, celle justement où se trouvait la porte, qu'il n'avait pas jugé prudent d'ouvrir jusqu'ici, dans la crainte d'un éboulement à l'intérieur. Il lui parut que ce qui l'entourait fut de pierre dure, de roc même. Alors il n'hésita plus. Il fit jouer les ressorts de la porte et se pencha sur le seuil, s'avançant dans les ténèbres, la torche minuscule qui répandit des flots de lumière. Hassel avait devant lui une caverne, une grotte très spacieuse, dont la ceinture était faite de pierres énormes, tassées, encastrées les unes dans les autres, donnant la sensation d'une solidité inébranlable. Il ne voyait pas distinctement le sol, mais regardant prudemment à ses pieds, avant de franchir le seuil, il s'aperçut qu'entre le vrillogyre et le terrain de la caverne s'étendait un espace vide, large de plus d'un mètre. Il pencha le jet de lumière et il lui sembla qu'il y avait là un abîme très profond dans lequel ses regards ne distinguaient rien. Au-delà de cet intervalle était le sol de la caverne qui lui parut fait d'une voûte peu épaisse, comme d'une croûte de ciment qui aurait recouvert un espace creux au-dessous. Cependant, cette sorte de carapace était d'apparence solide. Décidé à tout, Hassel prit son élan, franchit l'espace vide et se trouva debout, sain et sauf, sous la haute voûte de la caverne. L'air y était épais, lourd, presque suffocant, avec un relent de moisissure qui écœurait. Mais on n'en était pas à s'émouvoir de ces détails. Hassel éprouvait comme une sensation de libération. N'avait-il pas ressenti cette crainte inavouée à lui-même qu'il resterait séquestré, inhumé dans le vrillogyre, transformé en cercueil? La mort lente, horrible, dans l'immobilité et l'asphyxie. Jamais touriste en face de l'espace, du ciel, des bouquets d'arbres, des vastes paysages, n'éprouva joie plus intense que celle de notre bon savant, enveloppé de tous côtés d'une calette de pierre, avec sous les pieds un abîme sans fond. Pauvre nouvelle de la relativité des jouissances humaines. Et ce Hassel, emporté par son enthousiasme, s'écria « Oh, vive la vie, vive la science !»« Qu'est-ce qui piaille là-haut ? » répondit une voix qui semblait sortir des profondeurs de la terre.